Et ce matin, c'est vraiment un honneur, un privilège, une grâce que je mesure de pouvoir juste partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce que je trouve dans sa parole. C'est un trésor que je ne peux pas garder pour moi, tout simplement. Et j'aime partager, j'aime parler de mon Dieu, j'aime parler de ce qu'il dit dans sa parole. Et j'espère que vous aimez aussi la parole de Dieu. Et ouais, c'est la parole, la vérité qui vient jusqu'au plus profond. Et qui a le pouvoir de nous transformer à l'intérieur. Et c'est ce que je prie ce matin pour chacun d'entre vous. Peut-être vous êtes là pour la première fois, mais je sais que Dieu veut transformer vos cœurs à l'intérieur et vos vies. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un secret. J'aimerais vous parler du secret de la vie abondante. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 10:10, « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » C'est Jésus qui le déclare. Et vous connaissez ce verset, pour la plupart d'entre nous, on le connaît, et on le souhaite, n'est-ce pas, cette vie abondante. Et Jésus a promis cette vie abondante, qui pour moi veut dire le 100% de tout ce que Dieu a pour nous. Et dans ma vie, il y a eu, ou il y a encore parfois, cette frustration de me dire, mais Seigneur, là, je ne suis pas à 100%. Je ne suis pas au 100% de la vie que tu as prévue pour moi. Pourquoi je ne suis que à 50%? Pourquoi, quand je vais encore un peu moins bien, c'est même 20%? Bon, puis dans les jours où ça va super, waouh, je suis à 95, 99. Mais je me suis posé la question, en préparant ces moments, qu'est-ce qui nous empêche d'accueillir et de vivre la vie abondante que Dieu a promis, en fait? Lui, il a fait sa part. Il nous a tout donné déjà. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous empêche à nous de le vivre? Je me suis posé cette question et... Saint-Esprit m'a mis très fortement à cœur depuis le début de l'été ce verset qui répond à cette question, qui répond à comment vivre cette vie abondante. C'est Jésus lui-même qui enseigne cela. Et ce verset, on le trouve dans Luc 9, verset 24. Alors si vous avez vos Bibles ou vos iPhones ou vos Samsung ou toutes les marques que vous voulez, vous pouvez lire. Dans Luc 9, verset 24, vous pouvez suivre à l'écran. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi, dit Jésus, la sauvera. » Ouh! Qu'est-ce que nous dit Jésus? C'est un message tellement radical. Il nous dit, pour vivre vraiment la vie abondante, qu'est-ce qu'il faut faire? Perdre sa vie pour vraiment la gagner. En fait, en résumé, ce verset dit, Jésus nous dit, pour vivre, il faut mourir. Ça paraît tellement radical. Même à l'encontre de notre logique humaine, pour vivre vraiment, il faut mourir. Ou si vous voulez le dire autrement, pour mourir, pour vivre vraiment. Et ça va tellement à l'encontre de ce que nous, on recherche dans notre vie. On recherche des choses légitimes comme la sécurité, le confort. On cherche à ne pas avoir peur pour notre lendemain. On cherche surtout pas à mourir, nous. On cherche à vivre. Et Jésus nous dit l'inverse. Il dit, si tu veux vraiment vivre la vraie vie, la vie abondante que j'ai prévue pour toi, il faut que tu meures. Et c'est tellement contraire au confort. Et je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien le confort. J'aime bien mon canapé. J'aime bien me reposer. Et à Noël, mon frère et ma belle-sœur, qui me connaissent bien, ils m'ont offert un cadeau. Et ce cadeau, je l'ai apporté pour vous le montrer ce matin. C'était un coussin. Alors, voici le coussin que j'ai reçu à Noël. Un coussin tout doux, vraiment, il est super. Et il signifie pour moi le confort, ça c'est sûr. Mais je voulais vous montrer ce coussin parce que ce coussin, il est un peu particulier. Il est, bon, il n'est pas magique, mais il a une double fonction. Alors, je vais poser mon micro, je vais vous montrer ce que ce coussin peut faire, d'accord? Vous êtes prêts? Excusez-moi, je galère un petit peu, mais ça c'est moi. Donc ce coussin, il se transforme non seulement en une couverture, mais il se transforme en une couverture avec des manches. Moi, j'avais jamais vu ça. Et donc, je l'ai testé le jour même, et je me suis mise sous cette couverture, et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement on peut rester au chaud sous cette couverture, et en plus, on n'a même pas besoin, si on veut lire un bon bouquin, si on veut prendre un verre d'eau, si on veut, je sais pas moi, prendre la tisane en hiver ou quoi, j'ai même pas besoin de sortir la peau de mes bras au froid pour prendre. Je suis protégée. Wouh! En plus, je suis belle, non? Comme ça, je pense que je vais prêcher comme ça tout le message. Hein. Non, je rigole. Alors, n'est-ce pas? Alors ça, franchement... Bon, je vous le recommande, hein, si vous voulez en acheter un, je me tiens à votre disposition. Non, c'est pas vrai. Mais donc, j'ai reçu ce cadeau, et ce cadeau me fait tellement penser au confort, quoi. Mais au confort, même plus que ce qu'on pouvait imaginer, c'est même mieux qu'une couverture. Mais ce matin, Jésus, il n'est pas venu nous parler d'une couverture, il est venu nous demander de mourir. Et ce verset qui va être le verset central de notre méditation ensemble ce matin, c'est « Celui qui veut me suivre, je lui demande deux choses. Qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi? Renoncer à soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce matin? On va faire un partage participatif. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à vous? Renoncer à moi? Abandonner, se soumettre, oublier, s'oublier, exact. Alors, renoncer à soi, je vais d'abord vous expliquer ce que ce n'est pas. Renoncer à soi, ce n'est pas renoncer à son identité. Ce n'est pas renoncer à mes caractéristiques, à ce qui fait de moi une personne unique, créée par Dieu. Ce n'est pas oublier ma personnalité, devenir aussi lisse qu'un sol lisse. Ce n'est pas oublier qui je suis. Souvent, quand on dit oh, « il faut renoncer à soi », bon, bah, du coup, il faut disparaître, quoi. Il ne faut surtout pas exister, hein, parce que si ça sort trop par-ci ou trop par-là, les gens ne vont pas aimer. Non, renoncer à soi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus ne plus avoir de souhaits ou de rêves, même dans la vie, ou de grands rêves pour notre futur. Nous avons le droit, parce que nous sommes créés par un Dieu qui est un artiste créateur, de nous aussi avoir des rêves, vouloir accomplir des choses. Et renoncer à soi, ce n'est pas non plus rentrer dans le moule. Peut-être si vous fréquentez les églises depuis de nombreuses années, on peut des fois avoir cette impression que oh, les chrétiens, faut tous devenir pareils, faut tous s'asseoir sur des chaises, faut tous rentrer dans des cases. Non, pas du tout. Ce n'est pas devenir identique. D'ailleurs, le corps de Christ, la Bible dit que le corps est divers. Nous sommes tous différents. Et nous sommes tous justement là pour être différents, pour aider le prochain. Et le pied ne fait pas la même chose que la hanche, que le genou, que le coude, que le cerveau. Nous ne sommes pas amenés à être identiques. Et renoncer à soi, ce n'est pas ça. Renoncer à soi, c'est pas non plus voir la souffrance ou voir le fait de choisir l'option la pire dans nos vies comme étant quelque chose de valable ou de bien. En fait, renoncer à soi, ce n'est pas, par exemple, si je me balade au bord de la mer en ce moment et je vois le marchand de glace et je m'approche et puis je me dis « j'aime la glace au chocolat ». Mais bon, vu que le Seigneur me demande de renoncer à moi, bon ben allez, je vais souffrir. Je vais pas manger la glace au chocolat. Je choisis de me priver. Si Dieu lui-même ne me le demande pas, ça sert à rien. Ça s'appelle de la souffrance gratuite. Ça s'appelle se flageller soi-même et dire oh là là, bon c'est bon pour moi, mais du coup je le prends pas. C'est une attitude qui, je pense, attriste le cœur de notre Père, qui ne veut pas qu'on souffre gratuitement, qu'on souffre sans raison. Peut-être, à un autre moment, il va me demander de souffrir. Peut-être, à un autre moment, je vais passer aussi à côté de ce marchand de glace. Et puis, peut-être qu'il ne me reste que 2 euros de ce mois-ci. J'ai dépensé tout mon argent. Je vais être dans le rouge. Il me reste 2 euros. Mais l'Esprit de Dieu me dit, tu achètes cette glace et tu vas la donner au SDF qui est à côté, là. Et tu lui dis que je pense à lui, qu'il n'est pas oublié. Et là, je me sacrifie. Et là, je souffre. Et là, je choisis de dire non, je ne vais pas manger la glace pour moi-même, mais je vais la donner. Parce que Dieu m'a demandé. Vous voyez la différence ? Entre m'infliger une souffrance gratuite, et certaines religions ont poussé ça très loin. Et ont valorisé la souffrance pour la souffrance. Et le fait de renoncer à soi, c'est obligatoirement faire un chemin de croix sur les genoux pendant des kilomètres, s'arracher les genoux. C'est faire vœu de célibat peut-être, juste parce que voilà, je m'inflige ça. Ou faire vœu de pauvreté. Je ne crois pas que la parole enseigne ça. La parole enseigne de renoncer à soi. Le renoncement à soi, vous savez, c'est une question de volonté. C'est notre volonté qui doit plier à sa volonté. C'est quand je souhaite faire quelque chose, mais que lui souhaite autre chose, c'est dire non à ma volonté et oui à la sienne. Et ça change tout. S'il me demande d'être célibataire pour son royaume, je dois lui dire oui. Par contre, je ne vais pas m'infliger ça gratuitement. Vous voyez la différence ? Renoncer à soi, c'est faire ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémané, n'est-ce pas ? Il a dit à son Père... Ce qui se présente à moi, c'est trop dur. Il savait qu'il allait mourir, qu'il allait subir d'affreuses souffrances. Mais il a dit, si c'est ta volonté, alors je me soumets. Alors je te dis, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous sommes disciples de Jésus. Nous voulons faire ce que lui a fait. Nous voulons agir comme lui a agi. C'est ne plus vivre pour soi. Renoncer à soi, c'est ne plus vivre pour soi. C'est savoir qui on est. Je sais très bien que je suis royauté, je suis la fille du roi. J'ai une estime de moi très 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 bonne. Je sais qui je suis en Christ. Je sais que le Dieu vivant habite en moi. Mais je ne vis plus pour moi, je vis pour l'autre. Je renonce à moi, ça ne veut pas dire que je me dévalue ou que je me dis « Oh, ma vie ne vaut rien ». Non, ma vie, elle a du prix pour Jésus qui a tout payé pour moi. Mais il a tellement tout payé pour moi que moi, aujourd'hui, je veux mourir pour lui. Je choisis de lui obéir. Et renoncer à soi, en fait, c'est la définition de l'humilité. La parole nous dit dans Philippiens 2:3, n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers, laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère ou sa sœur comme meilleur et plus important que lui. Et donc, comme l'a dit C.S. Lewis, il a dit ceci, l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. Je sais qui je suis, mais je pense à l'autre en premier. Je pense à la volonté de mon Père en premier. Et finalement, le renoncement à soi dont on parle ici, C'est pas une question de s'appliquer des règles de vie, de privation totale, ou de faire des choses qui me font mal à l'extérieur, ou même d'appliquer des règles religieuses, parce que ça fait de nous des pharisiens qui suivent des règles. Les pharisiens, ils jeûnaient plus que vous et moi réunis. Ce n'est pas ça, c'est une transformation intérieure. Le renoncement à soi, ça parle de l'état de mon cœur. Ça parle de ce que mon cœur est prêt à faire pour mon Père, quand mon Père me dit d'obéir. Et renoncer à soi aussi, ça me parle de devenir un esclave. Alors ce mot, esclave, peut paraître dur, surtout au XXIe siècle. Mais dans la Bible, un esclave, on retrouve souvent ce mot. Et dans l'Ancien Testament, il y avait la possibilité pour un esclave hébreu qui avait travaillé pour son maître. La Bible dit dans Deutéronome qu'un esclave, une fois qu'il a travaillé pendant 6 années, au bout de 6 ans, la 7e année, il avait la possibilité d'être libéré. C'était inscrit dans la loi. Le maître pouvait lui dire « Merci pour tes services, maintenant tu es libre ». Et l'esclave pouvait choisir, par amour pour son maître et parce qu'il se trouvait bien dans la maison de son maître, de rester avec son maître. Et là, à ce moment-là, il devenait un esclave volontaire. Il choisissait. Il disait « Maître, je t'aime, tu es bon pour moi, ce que tu fais pour moi, la maison que tu me pourvois, pour moi, elle est bonne, et alors je choisis de rester. Moi et ma famille, nous te servirons jusqu'à notre mort. » Et à ce moment-là, ce que faisait le maître, c'est qu'il poinçonnait l'oreille de son esclave. C'était un signe d'appartenance, c'était un signe que l'esclave était maintenant son esclave volontaire. Et c'est pour nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui cheminons, en tant que disciples de Jésus, il faut que nous devenions les esclaves du Seigneur. Et d'ailleurs, dire Seigneur, vous savez, quand on prie, quand on dit Seigneur, ou quand on chante un chant, ou on dit Seigneur, pour nous aujourd'hui, ça veut dire Dieu, ça veut dire Père Céleste, c'est un synonyme de la divinité de notre Seigneur. Mais à l'époque, quand Jésus enseigne à ses disciples, et que ses disciples d'ailleurs l'appelaient Seigneur ou Maître, c'était le mot grec Kyrios qui voulait dire, ça n'avait rien à voir avec la divinité de Jésus, c'était pour montrer vraiment qu'il était leur Maître. Et un Maître qui a des esclaves ou des serviteurs. Et donc les disciples qui avaient choisi de suivre Jésus, c'était... ça coulait de source que quand on a un maître, on le suit, on fait tout ce qu'il dit, on est là pour lui, on est là pour le servir. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment, il s'étonne, il dit « Mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur ?» Justement, ce mot, c'est comme appeler « Tu es mon maître, je suis ton esclave, mais vous ne faites pas ce que je dis. » Il s'étonne, le Seigneur. Et il a raison, parce qu'on ne peut pas dire quelque chose et faire autre chose. Et dire « Seigneur », c'est dire « En fait, je suis ton esclave. Je choisis de me mettre sous ta protection. » Et le plus beau paradoxe, mes amis, ce matin, le plus beau paradoxe, c'est quand on devient esclave de Jésus-Christ, on n'est plus libre que dans n'importe quelle autre situation. Choisir d'être serviteur, esclave de notre Jésus qui a le meilleur pour nous, qui donne le meilleur pour nous, c'est être plus libre que si nous choisissons de rester soi-disant libre. Si je reste libre, si je dis « Ah non, ben non, je vais... » Attends, c'est quand même fort de dire ouais, « je m'offre en esclavage à Dieu lui-même. » Bon, non, je vais garder ma liberté. Je vais garder mes choix. En fait, c'est un leurre et c'est un mensonge de l'ennemi de croire que parce que vous gardez vos choix, vous gardez votre liberté, en fait, vous êtes libre. Vous n'êtes pas libre du tout, vous êtes esclave du péché. Vous êtes esclave de la chair. Et au moment où je choisis de devenir esclave de Christ, là, je suis libre. Parce que le Fils, qui est Christ, m'a franchi. La Bible dit, ceux que le Fils a franchis, ils sont réellement libres. Et des fois, il y a cette apparence de liberté. Ouais, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Si je veux, je sors, je fais ceci, je vais voir un tel, dadadi, dadada. Et on pense que c'est nous qui décidons. Vous savez, soit on est influencé par Christ Jésus, soit on est influencé par le malin. Il n'y a pas de zone de gris. Alors je vous encourage à choisir ce matin d'être l'esclave de Jésus. Et la deuxième chose que Jésus nous demande dans ce verset, c'est prendre sa croix. Prendre sa croix. Et je mesure que c'est un message, c'est pas un message feel good, qui brosse dans le sens du poil. Et Jésus, il marchait pas comme ça. Finalement, il voulait pas le nombre, il voulait pas les foules. Hein. Quand quelqu'un venait le voir, il dit, moi je veux te suivre. Ouais, mais attends, le fils de l'homme n'a aucun endroit pour reposer sa tête, ça veut dire que si tu me suis ce soir, t'es SDF quoi. Ce soir, on sait pas où on dort. Ou un autre qui vient le voir, qui dit « Je veux te suivre. Ok, vends tous tes biens et suis-moi. » C'est radical. C'est « Donne-moi tout. » En fait, parce qu'il savait que moitié-moitié ou être tiède, c'est terrible. C'est presque pire que d'être loin de lui. Parce qu'on fait des va-et-vient, c'est pas bon du tout. Pour nous, il sait le meilleur pour nous, donc il nous demande tout. Et donc, il nous demande de prendre notre croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix ? Prendre sa croix, c'est presque tomber dans le langage courant, de dire, moi, j'ai une situation un peu délicate dans ma vie, c'est difficile, je sais pas, moi, avec ma belle-mère, par exemple. Je peux dire ça, moi, je suis pas mariée, donc personne ne m'en voudra. Oh là là, ma belle-mère, elle est terrible. Mais bon, c'est ma croix, je porte ma croix. Hein, je supporte ça. Est-ce que c'est ça, prendre sa croix ? Est-ce que Jésus voulait dire ça à l'époque ? Alors à l'époque où Jésus parle, c'est toujours important quand on étudie la Bible de se remettre dans le contexte dans lequel Jésus parlait et qu'est-ce que ça voulait dire pour ses auditeurs, pour pouvoir l'appliquer à nos vies. Et donc, qu'est-ce que ça signifiait la croix ? C'était plusieurs choses. C'était un symbole d'oppression par les Romains, qui étaient donc les envahisseurs des Juifs. Et donc ils étaient là, ils occupaient la Palestine, et d'ailleurs ils occupaient tout le bassin méditerranéen, les Romains. Mais les Romains, ils ne sont pas venus pour s'imposer en mode « Bon, s'il vous plaît, on voudrait prendre le contrôle de votre pays. » Non, non, non. C'était, pardon du terme, mais c'était des barbares. Enfin, c'était très violent. Et la crucifixion, le fait de mettre des malfaiteurs sur une croix, c'était terrible. Et c'était d'ailleurs réservé aux pires des malfaiteurs. C'était pour les voleurs, les criminels et ceux qui avaient tué. Et d'ailleurs, Ponce Pilate le savait bien quand il a dû juger Jésus. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourquoi ils veulent la crucifixion ? Bon, à la limite, s'ils ne sont pas contents, on peut faire une punition. On peut même faire mourir la personne, mais d'une autre manière. Ce n'était pas du tout logique. Il le savait bien. Et donc, la crucifixion était malheureusement utilisée en grand nombre par les Romains. Et c'était aussi un symbole d'humiliation. Parce qu'il y avait d'autres manières de faire mourir quelqu'un. Je vous passe les détails, mais il y avait, à l'épée, par lapidation, par le feu. Mais de choisir de mettre quelqu'un sur une croix, c'était vraiment un souhait de l'humilier. Et d'ailleurs, ça prenait, et ça coûtait plus cher que les autres exécutions, ça prenait 4 soldats de crucifier quelqu'un. Et souvent, les personnes étaient crucifiées nues. Elles étaient exposées à la vue de tous. Et c'était vraiment humiliant, quoi. C'était un symbole d'humiliation. La croix, c'était aussi un symbole de souffrance terrible. C'est l'une des pires tortures que l'être humain, malheureusement, a pu inventer. Parce que la croix, ça ne vous faisait pas mourir rapidement. La croix... Il est prouvé dans les livres d'histoire, etc., que la croix, la mort pouvait prendre plusieurs jours et que la mort venait par suffocation parce qu'on n'arrivait plus à respirer, parce que le corps est attaché, mais avec la loi de l'apesanteur, le corps est attiré vers le bas et du coup, on n'a plus d'espace pour respirer. C'est terrible. Et c'est pour ça que les brigands sur la croix s'appuyaient sur leurs jambes pour pouvoir prendre de l'air. C'est pour ça aussi que Jésus, ils n'ont pas eu à briser ses os, ils n'ont pas eu à briser ses jambes pour finalement le faire mourir parce que lui, il était déjà mort. Et finalement, la croix, c'est un symbole de mort. Parce que la croix ne pouvait pas se terminer autrement que par la mort. La croix, ce n'était pas juste une torture et puis une bonne leçon, puis tu redescends de la croix et tu continues à vivre. La croix, elle se finissait que par la mort. Ce n'était pas possible autrement. Et donc, quand Jésus dit ça à ses disciples, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même, prenez votre chaise électrique, quoi, l'instrument qui va vous faire mourir, donc ça veut dire mourrez, et suivez-moi. Et pourquoi Jésus dit ça ? Pourquoi Jésus veut que ses disciples, que nous, aujourd'hui, ses disciples aussi, nous mourions ? Alors, il y a deux types de morts. Et je voudrais juste faire une parenthèse. C'est que la mort dont il est question ici, ce n'est pas la mort de Jésus, parce que Jésus n'avait pas encore été à la croix quand il dit ça à ses disciples. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a une mort qui est définitive, qui est unique, c'est celle de Jésus. Mais c'est aussi la nôtre. C'est notre mort et notre résurrection spirituelle. Parce que Jésus n'est pas seulement mort pour nous, il n'est pas seulement mort pour nous pardonner ou pour effacer notre dette, et ouf, il est mort pour nous, mais nous, nous sommes morts aussi avec lui. Et Galates 2:20 dit ceci, « La mort du Christ en croix a été aussi la mienne. » Amen, amen, amen. « La mort du Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui, et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi, à ma place. » Et cette mort-là, dans votre vie, elle est définitive. Il n'y a plus à y retourner. À partir du moment où vous reconnaissez votre état de pécheur, de séparation d'avec Dieu, et que vous acceptez son sacrifice, vous renaissez avec lui. Et c'est d'ailleurs le symbole du baptême. On plonge, on meurt, et on se relève, on ressuscite. Il y a plusieurs parmi nous qui ont vécu ce baptême il y a quelques semaines. Et c'est ça, et vous êtes une nouvelle créature, à 100%, il n'y a pas de 50%. Spirituellement, vous êtes blanc, même si vous êtes noir de peau. Vous êtes blanc dans le sens pur. Vous êtes racheté, vous n'êtes pas en train de devenir pur, vous êtes pur, vous êtes purifié, vous êtes justifié. Donc ça, c'est un événement qui est unique. Et ça, c'est la justification. Puis ensuite, vient ce qu'on appelle la sanctification. Et ça, c'est tout un processus. Et c'est dans ce processus-là que Jésus nous parle de mourir. Donc il y a la mort qui nous fait renaître, la nouvelle naissance. Et puis il y a la mort que Jésus nous demande d'appliquer à nos vies, mais chaque jour. C'est une mort qui est quotidienne. Si on relit notre verset phare, Luc 9, 24, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge, quand ? Chaque jour de sa croix. » Donc Jésus nous demande quelque chose à faire chaque jour. C'est du quotidien. C'est choisir chaque jour de ne pas reprendre le contrôle. Parce que moi, je sais que je peux le reprendre chaque jour, hein. C'est choisir de le laisser. C'est choisir d'obéir, de continuer à obéir chaque jour. Et c'est du quotidien, c'est encore et encore et encore. Et en parlant de quotidien, ça m'a fait penser à mon neveu. J'ai plusieurs neveux et nièces, et j'ai un petit neveu qui, l'année dernière, est rentré à l'école maternelle, donc il avait 3 ans. Et puis, c'est un petit garçon qui est très sensible. Autant sa sœur, elle fonce partout, et elle ne calcule pas, autant lui, il est très délicat, il regarde si tout le monde se sent bien. C'est quelqu'un qui, même dans la présence des adultes, va être là, et puis s'il voit que quelqu'un est un peu triste ou un peu tout seul, il va aller lui faire un câlin. Mais comme ça, hein, gratuitement. Il est merveilleux, mon neveu, moi je le kiffe. Il est trop mignon. Mais c'est vrai qu'il a cette sensibilité un peu extravertie. Et du coup... Des fois, en situation de groupe ou avec d'autres enfants, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il change de visage, il se met à pleurer, il y a un truc qui l'a chagriné, et on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des parents qui reconnaissent ce que je décris là, ou alors même, il pique une crise, et on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est une grande sensibilité, c'est à la fois une grande qualité, puis à la fois c'est peut-être un handicap pour lui. Et du coup, sa maman, elle avait un petit peu peur pour sa rentrée à l'école. Elle se disait, j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'avec les petits copains, les petites copines, ça va aller, tout ça. Et donc le premier jour de l'école arrive, et ma sœur, donc la maman de mon neveu, elle l'amène à l'école, etc. Puis après, elle rentre, puis elle prie. Et puis, se passe la journée. Elle va le chercher le soir. Et le soir, elle va chercher son petit garçon qui était tout sourire. Il était tout sourire. Il était, mais ravi. Il rentre dans la voiture. Il fait, alors, mon chéri, comment ça s'est passé? Ça a été, alors, l'école, c'est super, hein? Oh, ouais! Et il commence à dire, mais c'est génial! Et ça ne lui ressemblait pas. Bon, et du coup, ma sœur était ravie. Et puis, il parle, ouais, puis il y a, je ne sais plus comment il s'appelait, un petit copain qu'il avait rencontré, quoi. Il était ravi, etc., etc. Donc, ils arrivent à la maison, et la soirée se passe. Ils arrivent au repas. Et donc, pendant le repas, il continue à parler de l'école, il était enthousiaste. Et puis, à la fin du repas, vous savez, il y a les parents qui disent cette fameuse phrase, « Bon, les enfants, maintenant, on va faire pipi, se brosser les dents et au lit. » Ou un truc comme ça, c'est ça. Vous voyez, moi je n'ai pas d'expérience. Mais j'ai entendu dire que c'est ce qu'on dit aux enfants. Et puis là, ils rajoutent les parents. Ils disent quoi? Ils disent, parce que demain, il y a école. Et là, son visage... Et c'est rempli de terreur. Et il n'avait pas compris, en fait. Il n'avait pas compris le système. Il n'avait pas compris que l'école, c'est pas juste une journée sympathique où il y a des jeux et tout, la maîtresse est sympa, j'ai un nouveau petit copain, tout, ça clac, clac. Quoi ? Il a commencé à pleurer. Il fait quoi ? Faut y retourner demain ? Il n'était pas d'accord, quoi. Il a eu un moment de profonde révélation de ce que ça voulait dire le quotidien, de mourir à soi de manière quotidienne. Fallait y retourner, fallait faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Et du coup, et pendant plusieurs semaines même, il a continué à... Du coup, il avait peur à chaque moment que ce soit l'école, quoi. On est samedi matin, 11h du matin, c'était le week-end, et il demandait à sa mère, « On va à l'école, là ?» On va à l'école, est-ce qu'on va à l'école? Il savait plus, il avait l'impression qu'il fallait tout le temps y aller, quoi. Et donc, il a dû connaître ça. Et nous aussi, on doit connaître ça, on doit connaître le quotidien, le choix quotidien. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, on est passé dans un autre royaume, et dans ce royaume, il y a d'autres lois. Et les lois sont inverses aux lois qu'on connaît sur cette terre. Sur cette terre, pour vivre, il faut se reposer, il faut prendre soin de soi, il faut penser à soi, il faut vivre, quoi. Et dans le royaume de Dieu, pour vivre, il faut mourir. Et mourir chaque jour. Et pourquoi Jésus veut que nous mourions? Vous savez, parce que je pense qu'il sait très bien que les choses qu'on refuse d'abandonner, c'est justement les choses qui ont le potentiel et qui très souvent prennent la place de Dieu. Des choses même tout à fait légitimes, des choses que même Dieu nous a données. Si la chose que Dieu nous a donnée prend ensuite la place de Dieu, c'est ce que la Bible appelle idolâtrie, c'est quand quelque chose prend la place de Dieu. C'est pas, vous savez, l'idolâtrie, c'est pas forcément un autre Dieu horrible, un démon ou quoi. Non, c'est même des choses tout à fait, je le répète, légitimes. Un salaire, un travail, un conjoint, des enfants. Tout ça nous vient de Dieu. C'est des cadeaux de Dieu. Si ces choses-là prennent la place de Dieu dans nos cœurs, ça ne se voit peut-être pas à l'extérieur, mais si ça prend la place de Dieu dans nos cœurs, nous avons placé sur le trône de nos vies quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Et ça fait pleurer le cœur de Dieu. Parce qu'il sait en plus que nous adorons quelque chose qui ne va pas nous, qui va pas pourvoir à nos besoins, qui ne va pas nous satisfaire pleinement, qui ne va pas étancher notre soif spirituelle. Il sait aussi, il veut que nous mourions parce qu'il sait qu'il a tellement mieux pour nous. C'est comme un enfant, un papa avec son enfant qui lui dit « Lâche le jouet que tu as dans ta main. Lâche la chose là, que même moi je t'avais donnée peut-être l'année dernière. Mais là, j'ai un autre cadeau pour toi. J'ai un truc tellement énorme qu'il faut que ça tienne. Il faut que tu lâches. Sinon, ce que tu as déjà dans ta main t'empêche de recevoir la plénitude de vie, la vie abondante dont on parlait au début, que j'ai prévu pour toi. Tu penses avoir le meilleur cadeau dans ta vie, tu penses être arrivé, tu penses que la vie est au top, parce que tu as plein de choses matériellement, tout va bien, ou même à l'intérieur, tu te sens bien. Et le Seigneur te demande d'abandonner pour pouvoir recevoir cette vie. Et ce verset de Luc 9, 24, j'ai aimé la version parole vivante. J'aime beaucoup cette version. Elle dit, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Il y a une différence, en fait, entre notre vie et la vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie d'ici-bas, par amour pour moi et pour l'Évangile, trouvera la vraie vie. Il y a des avantages à être mort. Il y a des avantages à être mort. Amen. Alors, je sens que le Amen n'est pas encore pleinement convaincu. Donc, je voudrais illustrer ça. Et j'ai besoin d'une personne pour illustrer. Je vais choisir mon ami Mike. Tu le savais, Mike. Mike, tu vas jouer la personne qui meurt. C'est une bénédiction pour toi. Il faut que tu meurs, mon ami. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas jouer le mort. Alors, je te propose de monter là et de juste t'allonger par terre. Ouais. D'accord, bon. Un jeu d'acteur qui nous vient d'Hollywood. Merci beaucoup. Alors, le mort, il ne parle plus, il ne bouge plus, ne respire plus. Enfin, si, tu peux respirer. Ouais, tu es mort, d'accord? Et alors, c'est juste pour que visuellement, on voit à quoi ça ressemble quelqu'un qui est mort. Il ne bouge plus. Si je passe à côté de lui et je commence à l'insulter, alors je ne vais pas le faire parce que... Mais si je lui dis, ouais, de toute façon, t'es qu'un... Et puis, qu'est-ce qui se passe? Aucune réaction. Aucune réaction, hein. Ensuite, si je passe et que je tourne la tête et que je l'ignore, en fait, je lui dis pas bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Toujours rien. Si je passe à côté de lui, et même si je lui fais mal, alors je vais pas le faire, ne filmez surtout pas, mais si je lui donne un coup de pied, si je lui fais mal, il n'est pas vraiment mort. S'il est mort, il ne le sent même plus. Si je parle mal de lui, je dis « Ouais, de toute façon, Mike, il n'est pas assez musclé. Ben, » Je sais que je touche quelque chose, hein. C'est bon d'être mort, ça fait pas mal en fait d'entendre ça. Ça ne fait pas réagir. Et puis, si Mike, il s'en fiche que je sois un peu plus grande que lui. 1m78. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il se compare plus aux autres. Vous savez, la comparaison aux autres qui pourrit notre vie, qui pourrit tout spirituellement. Oh là là, il a plus d'onction, il est plus grand, il est plus fort, il est marié, il a 4 enfants, moi... Si je suis morte, les autres, ah c'est bien pour lui, enfin, je sais pas que je m'en fiche, mais si en fait. Enfin... Vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. cette illustration, elle n'est pas loin de la réalité spirituelle, enfin, c'est la réalité spirituelle de ce que nous devons vivre. Nous sommes morts. Les bénéfices à être mort, ils sont incroyables. Ils sont multiples, et plus on est mort, plus on en découvre. Plus on savoure la vraie vie. Amen. Alors avant que Mike s'endorme, je vais lui demander de se relever, ressusciter. Alléluia. Merci Mike. Donc, il y a des avantages à être mort. Tellement d'avantages. D'ailleurs, Martin Luther King avait dit ceci, « Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose ou une cause pour laquelle il serait prêt à mourir, bah, il n'est même pas à même de vivre. Ça vaut pas la peine de vivre. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est ok, alors je suis assez persuadée que c'est bon d'être mort, mais maintenant comment chaque jour mourir? Comment de manière très pratique, chaque jour se lever, dire ok Seigneur, j'ai entendu un message ce dimanche, donc on est lundi matin, je me lève et je meurs. Comment on fait ça? Vous savez, c'est une question de lâcher le contrôle. T'es lâché le contrôle, en fait. Et le contrôle, c'est une force très puissante dans nos vies, mais qui empêche Dieu de nous faire vivre cette vie abondante. Tu dois lâcher le contrôle. Tu dois ne plus être au volant de ta vie. Et pour ceux qui aiment conduire, c'est pas facile. Là, je reviens de quelques jours de vacances où on était avec plusieurs familles en vacances, donc on a passé de très bons moments et chaque jour, on partait se balader, etc. Et donc, on était à plusieurs voitures. Et donc, moi, j'étais non seulement dans la voiture la dernière, et en plus, j'étais même pas au volant, j'étais sur le siège passager. Mais quel repos, mes amis! Mais quel repos de juste suivre la voiture qui est devant. Je décidais rien. Ou même si j'avais été... D'ailleurs, quand je suis au volant dans ces situations-là, quand je suis au volant, bon, c'est aussi parce que je suis une femme, mais vous pouvez m'emmener n'importe où, je vous suis. Et si après, il faut rentrer seule, incapable. Je ne sais pas si on a tourné deux fois à gauche, trois fois à droite, et puis par où on est passé. Pourquoi ? Parce que mes yeux sont focalisés sur la personne que je suis. Et je n'ai pas... Ma volonté, elle est switchée à zéro, quoi. Enfin... Je décide plus. S'il va à gauche, je vais à gauche. Mais je suis en totale confiance. Parce que le gars devant, il a mis le GPS ou il connaît le chemin. Et moi, du coup, j'éteins mon GPS, j'éteins mon cerveau, tout. Et j'y vais. Je suis. Non, on dort pas. Mais par contre, je vous parlais du repos de suivre Jésus. Du repos que c'est de lâcher le contrôle. Du repos que c'est d'obéir. Et de dire oui. Tu veux que j'aille là, Seigneur ? Ok. Alors certes, des fois, on serre fort le volant, et franchement, moi, j'aurais envie d'aller tout droit ou à droite, mais je sais que je dois aller à gauche. Mais une fois que je suis, il y a un repos qui vient dans ma vie. Le repos de l'obéissance. Et ce verset dans Matthieu 11, 29, qui parle, vous savez, de prendre mon joug. Jésus dit « Prenez mon joug ». Et un joug, c'était une pièce en bois qui était placée sur deux bœufs. Et ce n'était pas finalement un poids pour un poids, c'était une pièce qui permettait au laboureur de diriger. C'est-à-dire avec, du coup, je ne sais pas exactement comment ça marchait, mais s'il faisait un mouvement sur la gauche, ça déplaçait toute la pièce vers la gauche et les deux bœufs suivaient la direction. Et en fait, quand Jésus nous dit « Prenez mon joug », ce qu'il dit, c'est « Laissez-vous conduire par moi ». Et du coup, ce verset devient « Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. » Dans le repos dont je vous parlais. « Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. » Donc, comment mourir ? Lâcher le contrôle. Et comment mourir ? Obéir aussi. Obéir. Et des fois, il y a des instructions de notre Seigneur. On est vrai ce matin. On ne va pas se cacher, elles font mal. Elle demande plus que ce qu'on peut naturellement et humainement faire. Il nous demande de lui donner quelque chose qui va nous arracher les tripes. Et moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Et je sentais vraiment qu'il fallait que je vous raconte ce témoignage pour vous encourager à mourir et à abandonner. En fait, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai dû obéir au Seigneur. Et c'était dans le domaine sentimental. Donc, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais quand j'avais 22 ans, je fréquentais un jeune homme qui était chrétien, qui était super. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, et je le savais très bien. Et j'avais, en quelque sorte, réprimé ce feeling-là qui est là à l'intérieur. Et du coup, quand j'ai pris la décision d'arrêter avec ce jeune homme, le Seigneur, dans sa grande bonté, m'a confirmé que mon choix était le bon par une parole de connaissance d'un pasteur que je ne connaissais pas, qui était là, qui prêchait sur un sujet. Je sais absolument pas de quoi il prêchait, vous savez. Et par contre, à un moment, il s'arrête. C'est comme si là, je suis en train de parler de mourir à soi. Il s'arrête, il fait « Écoutez, excusez-moi, juste une parenthèse. Il y a une jeune fille ici qui vient de rompre ses fiançailles. » Bon, en fait, ce n'était pas des fiançailles officielles, mais c'était des fiançailles officieuses. Et c'est exactement dans ces termes-là que on avait parlé avec ce jeune homme. Donc, Dieu veut te confirmer que la décision que tu as prise, c'est exactement la décision que tu devais prendre. Donc déjà, je te confirme. Secondo, je te promets que tu ne seras pas seule. Mais pas seule dans le sens, je vais te redonner quelqu'un, mais seule dans le sens, j'avais peur de me sentir seule. Et je l'avais dit à personne, mais j'étais terrifiée. Et dans cette parole de connaissance, le Seigneur m'a rassurée. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il m'a dit, dans cette parole de connaissance, et puis le Seigneur veut te dire qu'il te donnera un mari avec lequel tu pourras le servir, qui te tirera vers le haut. Ok, j'avais 22 ans. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Et les années ont passé, la vie a... Plein de belles choses se sont passées, le Seigneur a commencé à m'utiliser, je me suis entièrement donnée à lui pour le servir. Et puis, plus de 10 ans après, alors que j'étais en train de considérer, cette fois, vraiment, la personne que je pensais dans mon cœur était mon âme sœur. Enfin, c'est pas très biblique ce mot, mais vous savez, la personne avec laquelle je pensais finir le reste de mes jours. Et dans un moment de prière, j'étais seule à la maison, et je sens le Saint-Esprit qui me dit, non seulement, non, c'est pas lui, il me dit, Anne, est-ce que tu veux bien me donner même ton souhait de te marier? Et c'était une voix tellement douce, tellement profonde, qui venait chercher quelque chose que je n'avais pas donné à mon Dieu. Et même, il venait chercher quelque chose qu'il m'avait promis. Et vous savez, c'est l'histoire d'Abraham, quand Dieu lui demande le fils qu'il lui a promis. Et c'est possible, ça, dans nos vies. Dieu nous a donné quelque chose et il nous demande, est-ce que tu es OK ? Il ne vient pas de force le reprendre. Il dit juste une question. Est-ce que dans ta vie, là, tu serais OK de me donner même ce souhait-là, qui est un souhait tout à fait légitime, qui est bon? Et je crois que pour la plupart d'entre nous, nous sommes appelés à nous marier, à être bénis à ce niveau-là, à avoir des enfants, à peupler la terre, quoi. C'est des choses très belles et très bonnes que Dieu lui-même a créées. Mais pour moi, en tout cas, dans ma vie, il m'a demandé... Est-ce que tu es prête, si jamais, c'est jamais, est-ce que c'est OK pour toi? Et là, dans ce moment-là, je n'ai pas résisté longtemps, vous savez. Quand l'Esprit du Dieu vivant vous demande quelque chose, par contre, ça coûte. Par contre, ce oui que j'ai dit à mon Dieu, ce n'était pas un oui émotionnelle parce que je sentais sa présence et que j'étais en train de chanter un chant comme on chante, vous savez. On a chanté « Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Ça veut dire quoi, « il ne m'appartient plus » ? Ça veut dire « D'accord, Seigneur, en fait, non seulement je te dis, c'est OK, j'ai comme spirituellement, j'ai signé un contrat. J'ai dit, Seigneur, en fait, je veux te faire beaucoup plus confiance. Je sais que c'est toi qui décides, en fait. Et je sais et je suis persuadée que si tu me donnes ce que tu choisis de me donner, eh ben, c'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur pour moi. Et ce sacrifice, c'était un sacrifice d'adoration. C'était pas... Bien sûr, j'ai pleuré parce que, en fait, j'ai laissé là, je me rappelle, j'étais allongée par terre chez moi, j'ai laissé sur ce tapis, presque physiquement, les larmes d'un souhait qui est tout à fait légitime. Hein. Mais je voudrais juste témoigner que suite à ça, suite à cette décision d'abandon total, et vous savez, aujourd'hui, ceux qui me connaissent, qui ont déjà discuté de ce sujet avec moi, ils savent très bien que c'est pas du blabla. C'est pas oh oui, je suis chrétienne, donc c'est pas grave si je me marie pas. Non, 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 c'est réel pour moi, la joie qui est venue suite à ce sacrifice. Et c'est ce que j'appelle la joie de l'obéissance. La joie de l'obéissance. Mais j'ai obéi à un Dieu qui m'a comblée. J'ai pas le temps de vous expliquer. Mais depuis que j'ai abandonné ça, dans ce domaine et dans les autres domaines de ma vie, je vis une plénitude, je vis une joie, je vis un bonheur, je me sens plus aimée que beaucoup de personnes mariées, je pense. Ça ne veut pas dire que mon expérience doit devenir l'expérience de tous, hein, je le redis bien. Mais pour moi, ça a été un tournant dans ma vie d'abandon et de choix de dire « Seigneur, ce n'est pas juste des paroles, je crois que tu... Ah, le meilleur pour moi, je crois que tu es bon, donc ce que tu me donnes, c'est le meilleur. Et depuis, ce qu'il me donne, c'est le meilleur. La vie qu'il me donne en tant que jeune femme célibataire, c'est la meilleure. Moi, je crois que Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas, il est au contrôle. Et quand on lui donne nos vies, quand on lâche le contrôle, du coup, le contrôle, il est de quel côté ? Il est dans sa main à lui. C'est lui qui décide. Et il y a un repos et un épanouissement et une joie de vraiment... C'est pas moi qui décide. C'est plus moi qui vis. Si lui décide ceci ou cela pour ma vie, c'est le meilleur. Et vraiment, j'aimerais qu'ensemble, on puisse faire cette démarche d'adoration. Vous savez, dans ce moment d'adoration, tout à l'heure, vraiment, ma pensée, c'était... on ne peut pas être touché par la présence de Dieu qu'on sent ici et ne pas donner quelque chose en retour. C'est obligé. C'est obligé. Et il faut mourir pour vivre vraiment. Et j'aimerais, pour conclure, vraiment faire cet appel. Et je vais laisser les musiciens remonter avec moi sur scène parce que je voudrais qu'on adore notre Dieu, mais en ayant maintenant cette conscience de ce qu'il nous demande. Et il n'y a pas de plus beau cadeau d'adoration qu'une vie qui capitule. Une vie qui dit « Oui, Seigneur Jésus, je choisis de mourir. Je choisis de mourir. » Et peut-être pour vous, dans vos vies, actuellement, c'est pas du tout la même chose que ce que moi j'ai expérimenté par rapport à mon célibat. Mais le Seigneur veut que vous lâchiez le contrôle. Peut-être il veut que vous abandonniez quelque chose ce matin que vous n'avez jamais abandonné. Il veut que vous lâchiez même l'envie de comprendre. Il veut que vous lâchiez peut-être l'impatience quand la réponse de Dieu ne vient pas tout de suite. Le Seigneur veut que nous lâchions... que nous abandonnions, que nous lui donnions même nos rêves, même des rêves qui sont pour lui, mais qu'ils deviennent ses rêves à lui. Il y a une chose aussi que plusieurs personnes ont besoin d'abandonner ce matin, c'est le contrôle. Et c'est la peur. La peur du lendemain, la peur de manquer, la peur pour ses enfants, la peur pour son conjoint, la peur de ce que les gens pensent. Cette peur est comme une prison. Et Dieu veut vous en libérer, en fait. Pour lui, c'est rien du tout. Il est le Dieu puissant. Mais si vous la gardez pour vous, c'est comme si vous n'autorisez pas Dieu à toucher cette peur. Et en fait, Dieu ne veut pas juste la première place dans nos vies. Il ne veut pas seulement la première place. Il ne veut pas la première place dans nos vies. Il veut être notre vie entière, dans tous les domaines. Et moi, je suis la première à répondre à cet appel, en fait, ce matin. Parce que je sais que la vie abondante que Dieu veut me donner, c'est une vie abondante de contentement au lieu de l'insatisfaction. C'est une vie abondante de joie au lieu de tristesse. C'est une vie d'espoir au sein de l'épreuve. C'est une vie de victoire sur le péché, sur le diable. C'est une vie de victoire sur ce qu'on pensait qui nous liait. C'est une vie de pardon aussi. La vie abondante, c'est une vie de soif de lui, de communion intime avec lui. Et c'est une vie où le fruit de son esprit est abondant. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Et je veux laisser maintenant l'Esprit de Dieu toucher votre cœur et pointer du doigt la chose qu'il veut que vous abandonniez. Ou les choses. Et je voudrais aussi dire, peut-être il y a des personnes parmi nous qui sont là pour la première fois et qui ont besoin de capituler et de reconnaître qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de Dieu. Si vous êtes là pour la première fois, le Seigneur vous aime. Dieu lui-même, Dieu le Père vous aime. Il vous pardonne. Mais pour recevoir ce cadeau gratuit de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, vous devez capituler. Et dire, oui, je suis pécheur, j'ai besoin de la vie abondante de Dieu pour moi. Et s'il y a des personnes qui veulent donner leur vie entière ce matin, je vais vous demander de vous approcher. Puis je vais demander aussi à ceux qui connaissent Dieu depuis des années, mais qui veulent faire cet acte d'adoration, cet acte qui plie le genou. Je vais vous demander aussi de vous approcher sur le devant. Et ça va être un temps où ce n'est pas des personnes qui vont prier pour vous, c'est entre vous et Dieu. Il y a quelque chose dans votre cœur qui remue. Il y a quelque chose qui vous saisit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. J'aimerais qu'on puisse chanter, mais en donnant vraiment. En donnant même l'incertitude du lendemain, même les décisions pour cette année. En capitulant, en venant offrir à Dieu notre volonté. Et en lui disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors je vais laisser vraiment chacun dans la liberté, avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Et vous savez, se lever, venir sur le devant, ce n'est pas juste une habitude qu'on a dans notre église, mais c'est vraiment un acte d'obéissance. Et l'obéissance, elle est suivie d'action. Et c'est un symbole de se lever, de marcher et de venir dire oui à Dieu. Je capitule. Je te donne tout, Seigneur. Et moi, pour ma part, je viens aussi tout lui donner. Je réponds à cet appel. Je réponds à cet appel. Seigneur Jésus. Nous te donnons tout, Seigneur. Absolument tout, Seigneur. Même les choses qui font mal. Même les choses qui résistent, Seigneur. Même nos peurs. Nous te donnons tout. Nous te donnons tout, Seigneur. Nous arrêtons, Seigneur, de contrôler. Seigneur, nous retirons les souliers de nos pieds. Et nous te donnons tout, 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 tout.